DW. Pulsation.
Soyez créatifs, faites avec ce que vous avez malgré les difficultés. C'est le message que veut faire passer Nizar Salé à la jeunesse avec son premier long métrage Kinkongolo Kinyata. Le titre du film est le nom du groupe de musique que Nizar Salé, réalisateur congolais, a suivi pendant 3 ans. Des jeunes qui se sont mis en tête de faire du rock électro, un choix courageux au pays de la rumba, et qui fabriquent leurs instruments de musique à partir de déchets trouvés dans les rues de la bouillonne capitale congolaise, Kinshasa. À Cologne, Kinkongolo Kinyata a été présenté le 20 septembre dernier en première mondiale dans le cadre de la 21e édition du Africa Film Festival, le festival du film africain de Cologne. Nizar Salé a assisté à la projection et quelques jours plus tard, il a eu le temps de prendre un café devant notre micro. Un entretien que nous vous proposons d'écouter dans ce numéro de Pulsation. C'est Constance Fischer au micro. Bonjour à toutes et à tous. Nizar Salé, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur les ondes de la Deutsche Welle. Vous êtes à Cologne pour quelques jours. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ?
Je suis très ravi d'être ici à Cologne. Je suis invité par le festival Africa Film Festival Cologne. J'étais ici l'année dernière pour faire des workshops avec les élèves de l'école secondaire. Mais cette année, c'est pas seulement pour le workshop, c'est aussi pour présenter mon tout premier long métrage documentaire Kinkongolo Kinyata.
Qu'est-ce que vous avez ressenti d'abord de voir votre film pour la première fois ? C'était la première mondiale, je crois.
C'était vraiment un grand plaisir, surtout que c'est Africa Film Festival. Donc ça veut dire que c'est un maximum de films africains qui passent dans le festival et aussi des rencontres avec d'autres réalisateurs et producteurs africains qui font des films. C'était super intéressant pour moi aussi de découvrir certains d'autres films et de voir mon film sur un grand écran et surtout que c'est la toute première mondiale. J'étais vraiment très content du public qui est venu voir le film.
Alors sans tout dévoiler pour les auditeurs et les auditrices qui peut-être auront l'occasion de le voir, est-ce que vous pouvez nous situer un peu l'histoire et aussi comment vous avez eu l'idée de faire ce film ?
Ça va faire depuis le début de Covid que j'ai commencé à faire le film. Et ça commençait comme ça. Je connaissais le groupe de musique Kokoko. Peut-être que je ferai un film qui va raconter un peu l'histoire de c'est qui les précurseurs de ces mouvements, des types de musique à Kinshasa. Et c'est comme ça que j'étais le producteur, manager du groupe. Et je disais que ça serait une belle aventure et je m'attendais que le groupe finira par faire des tournées. Et je me dis, c'est une peut-être bonne occasion de filmer les groupes, mais pas seulement les groupes, mais aussi la ville. Parce que le groupe est totalement inspiré par la ville, les bruits de la ville. Donc c'est tout un mouvement que moi je suis témoin, en tant qu'artiste aussi. J'ai fait l'école des Beaux-Arts et j'ai vu tout ce mouvement de performeurs, de sculpteurs, de peintres. Donc c'est tout un mouvement qui font leur art avec l'idée de faire avec ce qu'on a et aussi deuxième vie de la récup. Et voilà quoi, donc c'est ça qui m'a inspiré. Le message derrière, c'est un message adressé aux jeunes, c'est de leur dire soyez créatifs, essayez d'innover, apporter de nouveau et faire avec ce qu'on a, malgré les difficultés, malgré les problèmes de la vie, malgré les problèmes de financement, malgré qu'il n'y a pas de place appropriée pour présenter nos créations, mais quand même on essaie de le faire et c'est sous cette pulsion que je me suis mis aussi avec ma caméra à commencer à faire le film.
Comment ça s'est passé en fait le tournage ? Parce que vous n'avez pas tourné non-stop pendant 3 ans. Comment vous avez conçu le film ? Ça s'est fait petit à petit, spontanément ou...
Ça c'est une très belle question. Moi je viens d'une école où j'ai plus appris à faire de films fiction. Ça veut dire engager les acteurs et travailler des répétitions, avoir un script bien écrit. Mais cette fois-là c'était une autre démarche en fait. C'est l'écriture vient en filmant. Quand tu filmes, tu trouves une direction petit à petit et tu te conformes aussi à des situations qui arrivent. Voilà, donc j'ai filmé presque 3 fois la semaine, toute la journée. J'ai eu beaucoup de rush, beaucoup de musique, j'en ai encore beaucoup. Et donc c'était spontané, tout ce qui vient, on enregistre.
Alors, vous partagez, je crois, votre vie entre Bruxelles et Kinshasa. Vous travaillez aussi avec tout ce qui est relations coloniales, postcoloniales et les restitutions d'objets d'art, par exemple. La Belgique, vous diriez que ça en est où en ce moment, par rapport surtout à la RDC?
Je dirais honnêtement que c'est encore loin. Il y a des bonnes intentions, mais il y a beaucoup plus de discussions. Et en Europe ou en Belgique, quand même, ce sont des universités, ce sont des musées, ce sont des institutions. Mais de notre côté, au Congo, dans mon expérience, je trouve que cette discussion reste juste dans le milieu intellectuel, dans le milieu académique et d'artistes, quoi. Mais le grand public, le Congolais, le quotidien, ils n'en parlent pas parce qu'ils sont préoccupés à survivre, à aller travailler pour manger. Ils n'ont pas le temps pour des choses comme ça. Et surtout que le gouvernement non plus n'est pas vraiment intéressé à entamer une démarche de restitution, sauf certains professeurs d'université, certaines institutions comme le musée, parce qu'ils travaillent avec des musées européens aussi. Mais les discours est encore un peu archaïque, je dirais, dans un sens où certaines personnes pensent que ça serait mieux de ne pas restituer ces patrimoines culturels africains parce que on ne sait pas encore conserver. Et j'ai eu cette discussion avec un professeur qui m'a dit, va chercher dans nos langues locales, tu verras que le mot mémoire et conservation n'existe pas.
Qu'est-ce que vous diriez justement à un Quinois, par exemple, qui est effectivement préoccupé tous les jours par sa survie? Pourquoi c'est important, ces histoires de restitution?
Moi, en fait, je suis Congolais. Tout ce que je sais, je l'ai appris du Congo. Mon père, il était Tanzanien, mais mes arrière-grands-parents étaient Indiens. Et donc, ce qui m'a poussé vraiment à creuser sur l'histoire du Congo, c'est que ma mère me racontait souvent des souvenirs de mes grands-parents, mais ça se limitait à la quatrième génération. Mais tandis que chez mon père, je connais 49 générations de mes arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. Je connais leur nom, je connais leur vécu. Ça fait plus de 1600 ans que cette histoire existe et ça continue à être perpétué des générations en générations. Quand j'avais compris ça, j'étais très choqué de dire « Mais comment ça se fait qu'une partie a été supprimée ou effacée ?» et aussi, parce qu'à chaque fois que je venais en Belgique, j'apprenais beaucoup sur le Congo. Et ça me choquait. Un élève de l'école primaire au Congo ne connaît pas ça. Mais ici, tu vois les enfants qui viennent faire des visites. Il y a une médiation culturelle entre le peuple et l'histoire, la politique, la culture et l'art. Que chez nous, ça n'existe pas. Et pour moi, c'est super important pour la population aussi. Parce que parfois, on est perdu. On ne sait pas à quoi c'est référé. Mais s'il y a ces références-là qui existent, je pense que ça va susciter un esprit critique et ça va ouvrir certaines portes qui sont fermées, quoi.
Vous essayez d'œuvrer aussi pour le dialogue entre metteurs en scène congolais et belges. Quels sont les défis principaux auxquels vous vous heurtez là où les dernières années vous aviez parlé d'un manque de moyens, par exemple?
Je pense qu'au Congo, il y a quand même, ça bouillonne dans toutes les disciplines artistiques, où tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués et très inspirés. Mais le plus grand obstacle qu'on a, c'est trouver des financements. Trouver des financements, les pays ne donnent pas des financements. Moi, par exemple, certains films que j'ai eu à faire parce que j'ai travaillé avec des Belges et les financements venaient de la Belgique. Et à un moment donné, c'est aussi difficile parce que quand on veut faire un film au Congo, on a besoin des autorisations. Et c'est très compliqué. Et surtout, même si tu veux montrer les bonnes facettes de la ville, mais c'est toujours difficile de te donner l'accord et l'autorisation de filmer. Ça fait partie des grands obstacles. Même si ce n'est pas un sujet politique, et surtout que dans le passé, vers les années 70, il y a eu beaucoup de propagande avec les dictateurs qui étaient à l'époque Mobutu. Ils ne voulaient pas de caméra, ils ne voulaient pas que les gens filment. Et c'est resté dans la tête des gens jusqu'à aujourd'hui. On a une certaine idée que les images sont vendues en Europe et que c'est souvent ça le problème. Tu peux commencer un film avec un personnage, vous signez des accords, il accepte de te donner les droits à l'image. Tu le payes même de l'argent. Mais à un certain moment, tu finis même pas les projets, il revient vers toi pour dire « Ah non, je ne vais plus faire le film, tu veux exploiter mon image, tu vas aller le vendre en Europe pour te faire de l'argent, il a vendu nos images, etc. » Et donc, même cette génération, Facebook, réseaux sociaux, bah, ils souffrent toujours, c'est un trauma qui existe, c'est difficile de supprimer ça, jusqu'à ce qu'on arrive à expliquer ça peut-être dans nos films pour que les gens comprennent le processus, comment ça se passe.
Nizar Saleh au micro de la DW, l'aventure de son film Kinkangolo Kinyata ne se termine pas là. Le réalisateur congolais compte maintenant retravailler le film, s'associer peut-être avec d'autres professionnels du cinéma pour enrichir la version finale, avant de trouver un réseau de distribution approprié qui lui permette avant tout de montrer son film en République démocratique du Congo.
Le public cible pour ce film, c'est le public congolais. Parce que dans le film, j'explique un peu comment le groupe est aimé en Occident, à Kinshasa. Ils ne sont pas connus, quoi. Ils passent comme ça inaperçus et ce n'est pas le premier groupe. Il y a eu beaucoup de groupes comme ça qui ne sont pas connus au Congo, que personne n'écoute parce qu'il y a déjà des stars qui existent au Congo, comme de Fally Ipupa, la rumba, etc. Il y a une autre musique qui existe, qui écrase un peu les autres. Et cette forme de musique, c'est un peu nouveau. Surtout avec la technique, avoir des instruments de musique assez particuliers, mais aussi les thématiques de musique. Mais le Congolais ne consomme pas parce qu'il n'y a pas de boîte de production qui s'intéresse à cette forme de musique. Ça ne rapporte pas de l'argent. Ça reste plutôt dans le milieu institutionnel et culturel, comme des centres culturels. Et c'est un peu triste, quoi. Et donc, dans le film, je voulais vraiment montrer que oui, il y a du potentiel, que vous négligez, que certaines personnes le prennent en considération.
Le Festival du film africain de Cologne s'est lui terminé le 29 septembre. Le film Disco Africa, une histoire malgache, a remporté le prix du jury avec une histoire de corruption dans le milieu des mines. Tandis que The Village Next to Paradise du réalisateur somalien Mo Harawe a remporté lui le prix du public. Sur la page internet de ce magazine, vous retrouverez le lien du Festival du film pour plus de détails, de photos et d'impressions. C'est là aussi que vous pouvez réécouter toutes les précédentes éditions de Pulsation. Bonne suite de semaine à toutes et à tous et à la prochaine.